Race d'ovipères. C'est ainsi que Jean-Baptiste s'adressait au peuple d'Israël sur les rives du Jourdain. Imaginez que je vienne au culte en vous interpellant de la même manière. Repentez-vous, race de vipères. Peut-être que certains sortiraient de la salle. Et si j'étais une personnalité célèbre, peut-être que certains sortiraient leur téléphone pour me filmer et diffuser cela sur les réseaux sociaux pour dénoncer des dérives sectaires. Ces paroles ont bien été prononcées par le prophète Jean-Baptiste. Comment ces propos ont-ils été reçus à l'époque ? Ce matin, je vous propose de lire deux textes. Le premier se trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 3, et elle relate ces épisodes où Jean-Baptiste parcourt les rives du Jourdain en criant ces paroles fortes « Repentez-vous, race de vipères !» Le deuxième texte se trouve à cheval entre les chapitres 18 et 19 du même évangile. Il sera question de deux hommes qui rencontrent Jésus et qui manifestent leur repentance. Et nous verrons le lien entre tous ces textes. Je commence par le premier, Évangile selon Luc, chapitre 3, versets 3 à 13. Jean parcourut toute la région du Jourdain. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés, conformément à ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Toute la vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé et les chemins rocailleux seront aplanis. Et tout le monde verra le salut accordé par Dieu. Il disait donc aux foules qui venaient se faire baptiser par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude et ne vous mettez pas à dire en vous-même « Nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait. Que devons-nous donc faire ? Il leur répondit que celui qui a deux chemises partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour se faire baptiser et lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce que qui vous a été ordonné. » Alors, j'ai lu qu'un extrait de ce paragraphe, versets 1 à 13. « Repentez-vous et soyez cohérents. » C'est ainsi que je résumerai ce passage. « Repentez-vous et soyez cohérents, dit Jean-Baptiste au peuple. » Ce récit m'interpelle à deux niveaux. Comment se fait-il qu'avec des paroles si dures, si sévères, le prophète arrive-t-il à toucher autant de monde ? Le texte nous dit que des foules venaient à lui. Il les appelle « race de vipères » alors que les Juifs se vantaient d'être de la race d'Abraham. Il annonce le Messie à venir, le Christ, et pour l'accueillir, il faut se repentir, c'est-à-dire changer d'attitude. Il faut aussi que ce changement d'attitude soit confirmé, soit accompagné par la manière de vivre. Relisons le verset 8. « Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude et ne vous mettez pas à dire en vous-même « Nous avons Abraham pour ancêtre. » En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. À l'époque, beaucoup de Juifs pensaient être justes aux yeux de Dieu simplement parce qu'ils étaient descendants d'Abraham et parce qu'ils respectaient certains rites. Et aujourd'hui, beaucoup de gens pensent être justes aux yeux de Dieu parce qu'ils respectent aussi des rites ou parce qu'elles se considèrent comme de bonnes personnes selon leurs propres critères. Et comme pour les religieux de l'époque, c'est de l'auto-justification. Le prophète Jean-Baptiste rappelle que l'appartenance ethnique, les rites et l'auto-justification ne comptent pas aux yeux de Dieu. Ce qui compte, c'est l'état du cœur. Il annonce que Dieu peut changer des gens qui ont le cœur dur comme de la pierre et en faire des descendants d'Abraham. L'expression « cœur de pierre » fait référence au prophète Jérémie qui annonçait justement que Dieu transforme les cœurs et intègre des juifs et des non-juifs à son peuple. Cela donne déjà un début de réponse à nos questionnements sur les paroles si dures de Jean-Baptiste. Lorsque Dieu veut parler à des cœurs de pierre, il peut utiliser des paroles frappantes, car un cœur de pierre est souvent difficile à atteindre. Et ce que je trouve encore plus surprenant dans ce texte, c'est que la foule se remet en question. De nombreuses personnes viennent et se font baptiser, signe de repentance dans notre passage. Jean-Baptiste parle de la colère de Dieu, de repentance, et les gens se sentent concernés. Ils ne traitent pas le prophète d'intolérant ou de fondamentaliste, mais ils se laissent toucher parce que les paroles du prophète sont accompagnées par l'action de Dieu. On peut aussi relever que la foule a soif d'être enseignée, comme si l'enseignement des religieux de l'époque ne répondait pas à leurs besoins. Lorsque Jean-Baptiste apparaît, ils ont dû se dire « enfin quelqu'un qui parle vrai, enfin quelqu'un qui ne nous dit pas juste ce que nous avons envie d'entendre, enfin quelqu'un qui parle avec conviction et inspiration ». Aujourd'hui, dans la communication, que ce soit à la publicité, en politique, en société ou en église, on se focalise parfois plus sur ce qui est politiquement correct, sur ce qui est audible, plus que le message en lui-même. Ou alors des fois on choque, mais de manière exprès, c'est pour le marketing. Jean-Baptiste s'est focalisé sur les besoins du peuple et sur le message divin. Le peuple en a même demandé davantage. Versets 10 à 13, la foule l'interrogeait. Que devons-nous donc faire ? Il leur répondit que celui qui a deux chemises partage avec celui qui n'en a pas et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Des collecteurs d'impôts vinrent aussi se faire baptiser et lui dirent « Maître, que devons-nous faire ? » Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous a été ordonné. » Jean-Baptiste parle donc bien des œuvres, mais des œuvres qui sont la conséquence de la repentance et de la foi en Dieu. Il leur dit « Si vous changez d'attitude, soyez cohérents dans votre comportement. » Au verset 18, le narrateur précise « C'est ainsi, avec encore beaucoup d'autres encouragements, que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. » Faut-il proclamer l'Évangile de la même manière aujourd'hui ? Faut-il parler comme Jean ? Je vous propose de laisser cette question de côté. Nous y reviendrons dans quelques instants. En attendant, regardons le deuxième texte que j'aimerais lire avec vous. C'est toujours dans l'Évangile selon Luc, mais cette fois au chapitre 18, au verset 35, et nous lirons jusqu'au chapitre 19, verset 10. Comme Jésus était près de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Il entendit la foule passer et demanda ce qui se passait. On lui dit « C'est Jésus de Nazareth qui passe ». Alors il cria « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi ». Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand il fut près de lui, il lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit « Seigneur, que je retrouve la vue ». Jésus lui dit « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé ». Il retrouva immédiatement la vue et suivit Jésus en célébrant la gloire de Dieu. Voyant cela, tout le peuple se mit à adresser des louanges à Dieu. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Dans ce texte que je viens de lire, il semble y avoir deux récits différents. Mais l'auteur a fait exprès de placer ces deux histoires à la suite parce qu'elles forment un même ensemble. Commençons par relever les points communs entre ces deux personnages. L'homme aveugle et Zachée ont tous les deux des handicaps qui les empêchent de voir Jésus. L'un est aveugle, l'autre est de petite taille. Les deux hommes sont marginalisés par le peuple à cause de deux choses différentes. L'un est mendiant et l'autre est riche, mais un riche considéré comme un grand pécheur. Et donc le peuple les marginalise. En effet, les collecteurs d'impôts étaient des juifs chargés de collecter l'impôt auprès de leur propre peuple pour l'occupant romain. Et il semblerait qu'ils avaient l'habitude de demander plus que nécessaire afin d'extorquer plus d'argent pour eux-mêmes. Zachée était donc méprisé par les juifs parce que lui-même, il était collecteur d'impôts, mais même chef de collecteur d'impôts. Il était mis à l'écart comme l'aveugle. Dans les deux cas aussi, la foule est un obstacle. La foule empêche l'aveugle de crier et elle empêche Zachée d'accéder à Jésus. Nos deux personnages trouvent tous les deux un moyen d'accéder, de surmonter l'obstacle. L'aveugle crie plus fort et Zachée monte sur un arbre. Enfin, dans les deux situations, Jésus les remarque. Il les fait venir à lui et annonce le salut pour les deux hommes. On voit donc qu'il y a beaucoup de points communs entre ces deux histoires. Maintenant, regardons quelques spécificités de chaque histoire. L'homme aveugle appelle Jésus, fils de David. David était un grand roi en Israël. Les prophéties annonçaient que Dieu enverrait un sauveur et il serait un descendant de David. En appelant Jésus fils de David, notre homme a exprimé sa foi en Jésus, comme quoi il était bien l'envoyé de Dieu venu pour sauver son peuple. Jésus le remarque, le guérit, et il annonce que sa foi l'a sauvé. Il est sauvé de sa vie sans Dieu, et il est sauvé de sa vie sans espérance. Il a désormais une nouvelle vie et une place dans le royaume de Dieu. Passons maintenant à Zachée. Jésus le remarque sur l'arbre et il lui demande de descendre, car il souhaite loger chez lui. Nous apprenons alors que Zachée donne la moitié de ses biens aux pauvres et qu'il redonne le quadruple s'il a causé du tort à quelqu'un. Donner la moitié de ses biens. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? Donner la moitié de ses biens. Au chapitre 3 que nous avions lu, lorsque la foule demande à Jean-Baptiste comment montrer que l'on s'est repenti, il leur dit que celui qui a deux chemises partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Jean-Baptiste avait bien dit à la foule, « Partagez, si vous avez deux chemises, donnez la moitié à celui qui n'en a pas. » De même pour la nourriture, etc. Et lorsque les Zachée demande, « Maître, que devons-nous faire ?» Jean-Baptiste répond, « N'exigez rien de plus que ce qui vous a été ordonné. » donner la moitié de ses biens et travailler honnêtement, c'est exactement ce que fait Zachée. Et peut-être même qu'il faisait partie des personnes qui étaient présentes au moment où Jean-Baptiste baptisait. En tout cas, il était au courant de l'enseignement du prophète, car il signale à Jésus qu'il a bien changé de comportement. Si avant, il profitait de son travail pour extorquer de l'argent, peut-être, maintenant, en tout cas, il travaille honnêtement. Le lien avec l'enseignement de Jean-Baptiste se voit aussi dans les paroles de Jésus. Alors Jésus dit à son propos, verset 9, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham. » Jean-Baptiste avait utilisé exactement cette même expression de « descendant d'Abraham ». Par cette parole, Jésus affirme que Zachée fait partie du peuple de Dieu. Au verset 10, il annonce ceci à la foule en parlant de lui-même. « En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Cette dernière parole résume ce qui s'est passé avec le mendiant aveugle et avec Zachée. Jésus est venu les sauver, les chercher et les sauver. On pourrait soulever que ce sont les deux hommes qui ont fait la démarche. L'un a crié, l'autre est monté dans un arbre. Mais à chaque fois, Jésus les remarque. Il les appelle à venir à lui. En résumé, à chaque fois, il y a une rencontre. Jésus vient nous chercher, il nous appelle à lui, il nous sauve par le moyen de la foi. Cela signifie qu'il utilise notre démarche de foi pour nous sauver. Alors pour conclure, dressons une vue d'ensemble de tous les textes évoqués. Au chapitre 3, Jean-Baptiste appelle le peuple à changer d'attitude et à être cohérent. Au chapitre 18 et 19, l'homme aveugle et Zachée ont tous deux exprimé leur foi et ils ont montré la cohérence qu'il y avait dans leur vie. L'aveugle guéri célèbre la gloire de Dieu et Zachée donne la moitié de ses biens aux pauvres. Qu'en est-il de nous? Comment ces textes peuvent-ils nous parler? Peut-être que nous avons du mal à nous sentir concernés parce que nous ne sommes ni aveugles ni marginalisés à cause de notre travail, en tout cas pas autant que nos personnages. Imaginez la scène suivante. Vous marchez tranquillement dans la rue et une voiture arrive à toute vitesse. Elle s'arrête à votre niveau, la vitre est déjà ouverte, et le conducteur vous demande s'il est bien en direction de l'hôpital. Vous regardez dans la voiture et vous voyez un homme blessé. Vous devinez que le conducteur cherche à amener son ami aux urgences, sauf qu'il a pris la mauvaise direction. Que faites-vous? Préférez-vous ne pas le contrarier et lui dire que s'il pense que c'est tout droit, après tout, il n'a qu'à aller tout droit. Chacun sa vérité. Ou préférez-vous lui dire qu'il s'est trompé pour lui indiquer la bonne direction? Dans la Bible, Dieu nous annonce que la terre souffre et que malheureusement, elle continuera de souffrir jusqu'à la fin. Dieu annonce aussi que le mal perdure dans le cœur de l'homme et qu'il perdurera jusqu'à la fin. L'être humain prend une mauvaise direction. La bonne nouvelle, c'est que Dieu peut nous sauver du mal qu'il y a dans notre propre cœur et nous offrir une nouvelle vie sur une nouvelle terre. Seul Dieu en connaît le chemin. Donc, lorsqu'il nous voit prendre la mauvaise direction, il nous le dit. Cela peut être perçu comme de l'arrogance, mais c'est par amour pour nous. Et lorsque Jean-Baptiste crie en disant au peuple « Repentez-vous, race de vipère », ce n'est pas pour l'insulter, c'est pour lui éviter de prendre un chemin qui mène à la mort. Et j'ai remarqué que nous parlons de manière très franche avec les personnes que nous aimons le plus. Si, en tout cas moi je réfléchis bien, les personnes que j'aime le plus, c'est avec elles que je m'adresse de manière la plus directe et sans filtre. À mes enfants et à ma femme, j'ose parler sans filtre. Et j'ose parfois mettre en lumière leurs défauts, leurs imperfections. Et eux aussi font de même avec moi. Je suggère que si Jean-Baptiste ou Jésus ont pu avoir des paroles très fermes, sans filtre, c'est par amour pour le peuple, pour leur éviter de prendre la mauvaise direction. Sommes-nous donc invités à faire de même ? Devons-nous crier dans les rues, race de vipères, repentez-vous ? Alors déjà, cette expression, enfin voilà, c'est un peu sorti du contexte. Je pense que la première chose que nous sommes appelés à faire, la première chose, c'est de nous laisser interpeller par Jésus. Ensuite, si nous voulons témoigner de la bonne nouvelle, commençons par aimer ceux qui nous entourent. Lorsque Jésus résume les deux plus grands commandements dans les évangiles, il ne dit pas « aime Dieu et évangélise ton prochain ». Il dit « aime Dieu et aime ton prochain ». Parce que si nous aimons notre prochain, nous ferons tout pour lui dire les choses avec amour et par amour. Alors cela sera peut-être maladroit, mais ce sera par amour. Et le témoignage est une conséquence de l'amour que nous avons pour notre entourage. Recevons donc l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Il est venu pour nous chercher et nous sauver. Ensuite, soyons cohérents, que notre vie reflète son amour et que notre vie porte du fruit, comme une conséquence de ce changement d'attitude que Dieu nous demande. Amen. Je vous invite à prier. Notre Père, merci parce que tu es venu nous chercher et nous sauver, sauver ce qui était perdu. Seigneur, nous nous reconnaissons comme perdus sans toi, nous nous reconnaissons comme tes enfants qui ont besoin de toi, parce que sans toi, nous ne savons pas quel chemin prendre dans la vie, ou alors nous prendrons notre propre chemin et nous ne savons pas où est-ce qu'il mène. Mais nous voulons te dire notre foi, nous voulons te dire que nous prenons le chemin qui mène à toi et nous voulons que notre vie soit cohérente avec cette foi. Aide-nous à chercher toujours plus comment te ressembler, comment te suivre et comment aimer ceux qui nous entourent afin de leur témoigner de la bonne nouvelle. Nous te prions pour l'Église, que ton Église puisse être justement le rayonnement de ton amour et que nous sachions avec discernement annoncer et proclamer l'Évangile. Au nom de Jésus, Amen.